bonjour, je vous appelle parce que bizarrement, à chaque fois qu'il me prend l'occasion de vous écouter ou de télécharger un podcast sur la série qui m'intéresse, j'entends que des gars qui parlent et jamais de filles invitées. Nous aussi on regarde la télé, nous aussi on aime les séries, nous aussi on est fans du MCU, et je trouve que ce serait sympa de ne pas faire que des conversations entre mecs. Merci, salut.
Concernant l'émission sur les Chevaliers du Zodiac, moi c'est un dessin animé qui m'a toujours mis mal à l'aise. J'ai toujours vu le fait qu'on enlevait des gamins, qu'on leur apprenait à faire la guerre, qu'on leur apprenait à tuer et à être tué au nom d'une idéologie qui était supérieure à l'individu et auquel ils devaient obéir avec honneur et loyauté, le tout servi dans une sorte de gloubi-boulga ésotérique. Ça fait pas un peu penser aux jeunesses hitlériennes des fois? Ah merde, j'ai eu le point Godwin. Bonne journée.
Bonjour, je suis la présidente de l'AFF, l'association Loi 1901, l'anglais avec Frédéric Sigrist, qui a été créée avec le sale gosse qui a appelé mardi pour faire un point sur la prononciation de Marvel. Donc on se retrouve tous les jours à l'heure du goûter autour de Figolu, et je voulais dire à Frédéric qu'on était hyper fiers de lui. Donc vas-y Fred, on te soutiendra toujours à fond, même si tu fais une émission sur Sardou. À bientôt.
Bonjour l'équipe de Blockbuster. En écoutant l'émission sur 1984, j'ai entendu que vous faisiez la semaine prochaine un sujet sur la Corée du Nord. Est-ce que c'est cette émission-là qui remplace celle prévue sur Michel Sardou? Eh ben voilà, enfin, au bout de 3 semaines, un sujet France Inter avec 1984. Bon, bah on attend la semaine prochaine l'émission spéciale Corée du Nord.
Gendarmerie nationale, bonjour. Nous sommes à la recherche de Dedo et de Capitaine Popcorn. Cela fait maintenant 7 et 6 jours qu'ils n'ont pas été entendus dans Blockbuster. Si vous avez des renseignements, merci de nous rappeler.
To be or not to be, not to be.
Je dois vous avouer un truc, j'ai une admiration profonde pour Alexandre Astier. J'ai un crush sincère pour cet homme. Il n'y a guère que François Morel et Alain Chabat qui me mettent dans le même état. Quoique ne pas citer Pierre Richard me semblerait profondément injuste. Oui, je sais, finalement, j'aime beaucoup de monde. Ce que j'aime chez les artistes que je viens de citer, c'est qu'ils ne donnent pas l'impression de tout le temps courir après le public. On les voit pas enchaîner film sur film, promo sur promo, afin de saturer l'espace médiatique de leur omniprésence. Non. S'ils courent après quelque chose, c'est uniquement après leurs envies. Il faut que le projet les passionne, sinon on ne les entend pas. Misanthropie, timidité, modestie, peu importe les raisons, le résultat est le même, leur parole est rare, mais grande est leur passion. Et c'est un luxe incroyable de faire avancer sa vie à la passion, car le plus souvent, la vie des gens roule à la nécessité. Alexandre Astier veut transformer un programme court humoristique en un feuilleton historique à teneur dramatique, et il le fait. Il veut jouer un seul en scène sur la vie extraterrestre, ou il le fait. Réaliser un dessin animé, il le fait. Et ça, pour une industrie qui ne sait mettre qu'un 2, un 3 ou un 4 derrière quelque chose qui a déjà marché, c'est incompréhensible. Mais pourquoi, monsieur Astier? Pourquoi changer une formule qui gagne? Vous n'avez pas peur de perdre le public? Mais peut-être qu'être un véritable artiste, au fond, ça n'est pas avoir peur de perdre le public, mais être profondément convaincu que le public saura toujours où vous trouver.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Eh ben yo, ils finissent pas leur coupette?
Ça passe pas.
On est noué.
À cause?
On est convoqué la table ronde.
Oula! Vous avez fait une connerie?
Bah une connerie évidemment, mais de là à être convoqué...
On a dû en faire une sévère.
En janvier 2005 apparaît sur les écrans d'M6 un programme court censé prendre la relève de Caméra Café. Ce programme s'appelle Kaamelott. Créé par Alexandre Astier, Alain Capoff et Jean-Yves Robin, Kaamelott, qui reprend la légende arthurienne si cette dernière avait été écrite par Michel Audiard, devient très vite un programme à succès à qui désormais une communauté de fans hyper fidèles voue un culte. Que cela soit les expressions brutes de décoffrage de Léo Dagan, les colères homériques d'Arthur ou les aphorismes du lunaire Perceval, la qualité des dialogues et les situations présentées dans la série l'ont fait entrer au panthéon des plus grandes comédies à la française, au même titre qu'un Rabbi Jacob ou que le Dîner de cons. Oui, je vais jusque là. Pour revenir sur cette incroyable aventure télévisuelle, j'ai avec moi Justine Breton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en littérature médiévale et spécialiste des films et séries télévisées sur la légende arthurienne et la fantasy. Et l'auteur de Kaamelott, un livre d'histoire.
C'est pas faux.
Également avec nous Mathieu Gillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur du forum de fans On en a gros, qui regroupe 3 structures, un site, un forum et une page Facebook communautaire.
Exactement.
Et enfin, mon ami, mon camarade, Thomas Hercouet, bonjour.
Bonjour Frédéric.
un community manager du site Topito, fondateur de La Nuit Originale, une émission que l'on peut retrouver sur YouTube et grand fan de la série.
C'est exact.
Ensemble, on reviendra sur la création de Kaamelott, son évolution, comment ce programme court a évolué au fil des saisons pour devenir un feuilleton en passe de devenir un film. On évoquera ce casting incroyable que la série nous a donné à découvrir. On parlera bien évidemment de la personnalité de ce génie touche-à-tout qu'est Alexandre Astier, de son perfectionnisme à son rapport aux fans. On évoquera également l'aspect historique de Kaamelott et on s'interrogera sur ces films annoncés depuis si longtemps et sur lesquels on ne sait finalement pas grand-chose, ce qui fait qu'on parlera sûrement pour ne rien dire, ce qui est quand même une des raisons pour lesquelles on m'a embauché. Allez, Blockbuster spécial Kaamelott, c'est parti, et n'oubliez surtout pas, le gras, c'est la vie.
Qu'est-ce qu'on attend là déjà ?
Alors, pour la 20e fois, on attend une apparition de la Dame du Lac.
Ah ouais, c'est ça.
La Dame du Lac, par rapport à vous, c'est...
Comment par rapport à moi ?
Votre cousine ?
Mais absolument pas.
Il paraît qu'elle accepte de voir que vous.
Alors pour la 30e fois, ça aussi, c'est pas qu'elle accepte de voir que moi, c'est qu'il y a que moi qui peux la voir.
Ah ouais, du coup...
Si elle accepte de voir que vous...
Non. Il y a que moi qui peux la voir. Oh putain. Il y a que moi qui ai la capacité physique, sensorielle de la voir. Vous pouvez pas.
Bah si elle veut pas, on va pas la forcer.
Oh merde, là.
Alors, évidemment, on a tout de suite reconnu voilà, ce passage où Arthur tente d'expliquer à Perceval le principe de la Dame du Lac. Et commençons par le commencement. Kaamelott, l'idée est apparue comment ? Justine Breton.
Alors, Kaamelott commence avant tout par un court-métrage qui est réalisé en 2003 par Alexandre Astier avec une bonne partie de l'équipe, hein, déjà une partie du casting, notamment une partie de l'équipe technique, qui s'appelle Dies Irae et qui est consacrée à la légende arthurienne, les chevaliers de la table ronde qui cherchent le Graal, mais qui globalement vont finir par écouter des haricots. Hein, voilà. Donc le principe de base est déjà là et c'est un court-métrage qui va très vite connaître son succès hein, dans les festivals. Ça va recevoir pas mal de prix, des prix du jury, des prix du public, jusqu'à Montréal. Et c'est comme ça que le court-métrage est repéré par Jean-Yves Robin Productions et ensuite par C'est à la télé, donc Calt Productions.
Qui avait déjà produit Caméra Café.
Voilà, qui justement cherchait un remplaçant pour combler, j'ai envie de dire, cette case horaire de 20h30 sur M6 et qui se tourne vers le concept de Kaamelott, qui est un petit peu différent de Caméra Café, hein, que ce soit dans l'écriture ou dans le style, mais qui part de ce même principe d'abord de pastilles courtes qu'on peut regarder un peu quand on a le temps, hein, c'est le principe des virgules. Au début, on n'est pas obligé de suivre toute l'histoire, on peut regarder quand on en a envie et on passe un bon moment. Voilà, c'est le principe qu'on a avec Un gars, une fille, enfin, ce type de série. Ce n'est que par la suite que Alexandre Astier va décider de pousser un peu les murs de tout ça, hein, que ce soit dans le format, avec des épisodes qui passent de 3 minutes 30 à 7 minutes, puis 40, puis on se dirige vers les films petit à petit, mais aussi avec la narration, puisque on a les premiers épisodes qui décrivent les personnages, qui donnent des situations, hein, on est sur un comique de situation ou de caractère très souvent, et petit à petit on a une série qui devient ce qu'on appelle plus feuilletonnante, donc qui raconte une histoire, et on va avoir la trahison de Lancelot, la fuite de Guenièvre, etc. Et je vais pas spoiler la fin, même si la fin de la série a 10 ans, donc bon.
Mathieu Gillet, est-ce que cette envie de créer une intrigue qui s'étale comme ça sur dans un format beaucoup plus proche de celui du cinéma, est-ce qu'elle était là à la base ? Est-ce que c'était déjà dans la tête des créateurs ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure en fonction du succès ?
C'est difficile à dire parce qu'on n'est pas dans la tête d'Alexandre Astier, mais il me semble qu'il y a du monde là-dedans. Ouais. Il me semble que, oui, effectivement, lui, il a créé ça à la base comme quelque chose qui devait prendre un petit peu plus de place que simplement des épisodes courts. Et il a souvent dit que pour lui, Kaamelott, c'était une histoire qui n'était pas simplement comique. C'était pas simplement fait pour être des virgules ou des choses pour passer le temps comme ça. Donc, effectivement, on peut s'imaginer que, à la base, quand il a commencé à écrire ses premiers épisodes, il s'imaginait que à terme, ça prendrait un petit peu plus de place. Et pourquoi pas, dès 2005, pensait-il déjà au film ?
J'espère. Mais c'est vrai qu'on a déjà dans cette idée, tu citais tout à l'heure des classiques de la comédie française. Si on regarde bien, dans ces grandes comédies qui sont devenues des classiques pour une raison justement, on a déjà ces éléments de drame ou de tragédie qui sont présents hein, dans La Septième Compagnie ou des choses comme ça. Ok, c'est de la grosse comédie avec parfois des grosses ficelles, mais on a une écriture très précise et des thèmes finalement très forts derrière.
Et Thomas Hercouet, est-ce que dès que vous avez découvert Kaamelott, vous êtes tombé en pamoison et vous dites waouh, elle est trop forte cette série, je veux tout voir.
Ouais, moi après à titre perso c'est différent. Moi j'aime beaucoup Sacré Graal, les Monty Python et l'humour un peu absurde. Et je pense qu'en tant que, alors c'est très bête, mais je pense que quand on est français et qu'on a grandi avec La Cité de la Peur, Mission Cléopâtre, les comédies comme La Septième Compagnie, il y a même le Dîner de cons et tout ça. Il y a quand même quelque chose dans le langage. Rabbi Jacob. Il y a quelque chose dans le langage. Il y a quelque chose dans la rythmique. Il y a quelque chose dans la musicalité des dialogues qui marche et qui cartonne. C'est ce qui fait que toutes les sitcoms qu'on a vues comme Un gars, une fille, comme Caméra Café, tout ça, ça marche au rythme. Et c'est assez spectaculaire de voir que Kaamelott, finalement, c'est la même formule, sauf qu'ils ont des armures. Et il y a des vannes qui reposent un peu sur des ressorts similaires. Effectivement, il y a aussi cette notion tragique et tout, etc. Mais ouais, le langage, la musicalité de Kaamelott. Kaamelott, pour moi, c'est une émission de radio. Kaamelott, ça s'écoute. On peut passer des extraits, on peut se passer des épisodes entiers de Kaamelott là maintenant tout de suite sur France Inter, on ne perd à rien. Alors il y a un beau taf qui est fait, mais cette musicalité, cette rythmique, ce jeu sur les mots, c'est aussi cet humour qui est extrêmement populaire. Aujourd'hui on pense que Kaamelott c'est un peu la série, il y a un petit côté, bon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi je regarde pas de série française sauf Kaamelott. Hein, Kaamelott c'est la seule bonne série française, ce qui est déjà complètement con, mais en plus... Kaamelott, c'est méga populaire. Et c'est ça qui est cool, ouais. Quoi. Donc ouais, c'est génial pour ça.
Et d'ailleurs, je pense même que Kaamelott, j'en avais parlé dans un précédent blockbuster, ça répond aussi aux héros à la française. C'est-à-dire qu'autant les Américains ont besoin d'avoir des personnages, mâchoires carrées, comme ça, qui font des trucs spectaculaires, autant que ça soit au théâtre, en film, en bande dessinée, en France, on aime les gens un petit peu moins bon que la moyenne, c'est-à-dire
des gens qui ratent,
qui râlent, qui un peu médiocre. Et Kaamelott, c'est toute une galerie de personnages, enfin qui n'est que ça, c'est-à-dire de Perceval, Léo Dagan, enfin
c'est le bras cassé, bah oui.
C'est les défauts français mais poussés au pinacle.
Une belle image de la France, j'aime beaucoup, mais c'est vrai.
Ça, c'est le seul truc peut-être une des critiques qu'on peut faire à Kaamelott, c'est que tous les personnages ont un côté vraiment con, vraiment un peu à la ramasse, sauf Arthur. Arthur qui est le mec un peu paumé là-dedans et lui il a ses failles aussi et ses défauts, mais du coup je pense qu'on s'identifie beaucoup à lui parce qu'on aime penser en tant que français que parfois on est un peu meilleur que les autres, et je pense qu'à travers Arthur on se dit ils sont tous teubés, ils sont adorables. Nous, ça va.
C'est intéressant parce que moi, je m'identifie beaucoup plus à Léo Dagan, par exemple.
Avec la volonté de cette émission.
Voilà, tout simplement.
C'est le côté autoritaire, ça.
Peut-être, je ne sais pas. Et Mathieu Gillet, vous, votre rencontre avec Kaamelott, c'est arrivé comment?
Ça s'est fait à la télé, c'est très original. à peu près vers le début de la diffusion de la série, à une époque où moi, je regardais quasiment plus la télé, et je suis tombé dessus parce que j'étais en vacances chez mes parents et qu'il y avait la télé allumée. Et je suis tombé dessus à ce moment-là. Et ce qui m'a plu d'abord dans cette série, c'est, je pense, la qualité des dialogues, comme beaucoup de gens. Hein. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans une série française. Et surtout qui traitait d'un thème un petit peu heroic fantasy, un petit peu fantastique comme ça, où si on voulait faire du comique à l'époque à la télé française, il fallait que ça se passe de nos jours et en région parisienne. Et donc là, c'était un décalage qui m'a paru intéressant. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a plu dans la série au départ. Donc je me suis lancé là-dedans à cette occasion-là, et les épisodes qui étaient courts à l'époque, c'est vrai que ça permettait de les regarder en enfilade comme ça assez rapidement.
D'ailleurs, quand on les enchaîne tous comme ça, il y a un effet hypnotique au bout d'un moment, avec le son du corps. Le son du corps à chaque début d'épisode, on est
ça attire l'attention, c'est les trois coups du théâtre qui te disent bon bah attention, la pièce va commencer.
Ça réveille ceux qui se sont endormis entre-temps en plus, c'est pas mal. Donc
on va continuer de parler de Kaamelott, n'ayez crainte, mais pour le moment, si on écoutait Brigitte Fontaine et M avec Il y a des azous. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Mathias Allion.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de césar, vous serez tous azous comme nous, car le azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrer un jour sur votre passage. Un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage. C'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous. Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Azou on s'y retrouvera. Car c'est faux ce qu'on rigolera. Quand je me les douche on chantera comme ça. Voilà tout de
C'était M et Brigitte Fontaine dans Blockbuster sur France Inter.
D'accord, effectivement, Bord, ce serait vous mentir que de dire qu'il n'y a que des lapins dans cette forêt.
Quoi d'autre alors?
Mais tout, c'est une forêt.
Des faisans?
Je sais pas, oui, pourquoi pas des faisans?
Il y en a ou il y en a pas?
Mais vous m'emmerdez! Qu'est-ce que ça peut vous foutre d'abord? Vous n'avez pas peur des faisans, si?
Ah si, des oiseaux de 4 pieds de long, je m'excuse du peu, mais je trouve ça parfaitement terrifiant.
Alors là, c'est sûr, c'est pas gagné.
Un faisan blessé? Il paraît qu'il a plus peur de l'homme et qu'il peut venir vous picorer.
Bon, remettons qu'il n'y a pas de faisan.
Vous dites ça pour me rassurer?
Non, pas du tout. Tenez, ici c'est le territoire de chasse du seigneur Dagonet. Le seigneur Dagonet, vous le savez bien, quand il chasse des bestioles, il les empaille et il les expose chez lui. Bon ben voilà, je ne me souviens pas avoir vu de faisan empaillé chez Dagonet.
Alors qu'est-ce que vous avez vu comme bête empaillée?
Des lapins.
Des lapins adultes?
Non, c'était plutôt des jeunes.
Des jeunes lapins?
Oui, voilà.
Et quoi d'autre?
Non, là comme ça, je me souviens surtout des lapins. Des jeunes lapins. Ouais, non, ça d'accord. Ça d'accord, ça c'est un lapin adulte, ça.
Qu'est-ce que vous récoltez à cette heure? Vous roupillez pas?
Ben, et vous?
On m'en parlait pas. Je pars pisser, pan. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable. Quand je dis un ours, c'est pour frimer, c'était dans le noir. J'ai pas bien vu.
C'est sûrement un lapin.
Un lapin adulte?
Je sais pas. En même temps, il était pas bien grand. Peut-être un ado.
Entre deux âges.
Ouais. C'était pas un faisan, quand même.
Ben non. Si j'étais tombé sur un faisan, je serais pas en train de me la péter comme ça.
Nous sommes toujours avec le docteur en littérature médiévale Justine Breton, l'administrateur du forum de fans On en a gros, Mathieu Gillet et Thomas Hercouet, le community manager du site Topito, pour parler de Kaamelott. Alors je rappelle aux éditeurs que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour. Et j'en profite pour répondre au répondeur pour dire que l'équipe de Blockbuster, est, en dehors de moi, est intégralement féminine. Et sachez-le, on cherche effectivement des fans, des fans femmes, filles, pour venir parler autour de cette table, mais des fois on n'en trouve pas, et où il y en a, mais dans d'autres coins de France, et comme je le dis, le service public ne paie pas les billets de train, c'est pour ça qu'on les a pas autour de la table. Mais si jamais vous êtes cliente, si vous avez envie de venir, la porte est grande ouverte, nous ne faisons pas de sélection genrée, je le répète, tenez-vous-le pour dit.
On est très bien accueillis,
voilà.
En plus.
Voilà, merci Justine. Alors revenons à la personnalité incroyable de ce monsieur Alexandre Astier. Il écrit, il joue, il compose la musique, sa famille joue dans la série, c'est son ex-femme qui a fait les costumes. D'où vient cette envie de tout contrôler?
À la base, je crois que c'est une passion pour les repas de famille. Vraiment. Non, je sais pas exactement d'où ça peut venir, mais je pense que c'est une envie de travailler dans un environnement qui est proche, avec une grande fidélité.
Ouais, voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que, il sait tout simplement que ces gens-là avant d'être des membres de sa famille, sont des gens qualifiés, des gens qui vont être sérieux, qui vont faire le travail qui est demandé, ils vont le faire bien. Donc c'est vrai que c'est plus qu'à Astier, c'est une famille qui travaillent beaucoup ensemble. Hein.
Oui, parce que ses parents sont comédiens également.
C'est ça, ou travaillent en metteur en scène.
Il écrit les personnages pour des acteurs qu'il connaît.
Voilà. Donc, qu'il a vu jouer sur scène.
Qu'il a déjà vu jouer, et il écrit un personnage connaissant le rythme de diction des acteurs et leur style de jeu. Donc,
ouais, il parle beaucoup des acteurs comme des instruments de musique. Ouais. En fait. Donc c'est vrai qu'on n'écrit pas, enfin je ne sais rien, je ne suis pas du tout musicienne, mais vous m'interrompez si je dis trop de bêtises, mais je suppose qu'on n'écrit pas une partition pour un violon comme on écrit pour un piano. Donc c'est exactement le même principe. Il faut qu'il ait l'acteur en tête pour savoir exactement la rythmique. Et c'est vrai que cet aspect, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette musicalité est vraiment essentielle pour l'écriture de Kaamelott et aussi dans tous les projets que Astier écrit en fait.
Et d'ailleurs, même si on est sur une forme au départ assez courte et assez humoristique, il y a une qualité de jeu, notamment pour certains personnages, qui est proprement hallucinante quand on connaît les règles du théâtre et du spectacle. Franck Pithiot, qui joue Perceval...
Qui n'est pas comédien, à l'origine.
Voilà, qui n'était pas comédien, a un jeu absolument inimitable. C'est-à-dire que on donne le même texte à quelqu'un d'autre, on n'a pas du tout le même effet.
Ça tombe à plat avec beaucoup de gens. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est... peut-être une naïveté, justement, vu qu'il y a une naïveté du personnage avec un comédien qui, à l'origine, n'en est pas un. Il y a peut-être cette fraîcheur, je sais pas. Mais toujours est-il qu'avec lui, ça marche, quoi.
Quand on parle de fraîcheur, on sait qu'il avait l'habitude aussi, à l'époque des premiers livres, de donner le texte des épisodes aux comédiens juste avant de tourner.
Le jour même.
C'est-à-dire qu'il ne les voyait pas avant et il recherchait l'authenticité du jeu en faisant ça.
Puis même quand on regarde le livre 6, moi, j'étais bluffé par la performance de Pierre Mondy. César, qui fait un très très bon César, et c'est un acteur incroyable qui se révèle là, sauf que il joue dans Les Cordées du jugé flic, je crois.
Oui,
il joue
beaucoup de théâtre aussi,
Et je pense que c'est un acteur qui est parfois un peu snobé par un certain milieu critique parce qu'il joue dans des séries très populaires. Et là, on le voit au croisement, donc dans Kaamelott, qui est vraiment le croisement de tout ça, et c'est spectaculaire, quoi. Je pense qu'il y a un flair pour choper.
Il y a des guests incroyables.
Checky Cario,
on a Didier Benureau,
Patrick Chenet,
Antoine Decaune.
François Rollin qui est là depuis le début, quand même.
Ouais. Oui,
c'est... Ouais, on peut faire une belle liste, hein, quand même.
Et alors, il y a aussi cette envie de délocaliser la production de Kaamelott à Lyon. Là, on a affaire à quelqu'un qui est issu de la région lyonnaise, qui aime sa ville et qui dit « bah non, on va pas faire ça à Paris, on va faire ça principalement chez moi ».
Je me rappelle d'une émission sur France Inter il y a quelques années où il était interviewé par Yves Calvi qui lui demandait pourquoi il continuait de vivre à Lyon. Et il avait répondu, c'est plutôt à moi de vous demander ce que vous venez foutre à Paris. Hein. Franchement, à Lyon, on est bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est attaché à cette région. C'est chez lui, il a ses habitudes. Et puis, il n'a pas forcément besoin des infrastructures supplémentaires qu'il aurait éventuellement à Paris.
C'est même d'un côté pratique. Hein. Du coup, puisqu'il prend des comédiens, soit de sa famille, soit qu'il connaît, etc. Beaucoup viennent de Lyon, de Dijon, enfin, voilà, d'une zone quand même assez proche. C'est juste beaucoup plus pratique d'avoir ça, surtout que dans les premières saisons, il y a beaucoup de tournages en studio. À partir du livre 2, on a des tournages extérieurs qui forcément amènent plus de budget aussi, mais voilà, ça.
D'ailleurs, on l'a pas dit, Kaamelott coûtait assez cher pour un programme court.
Oui. Surtout après Caméra Café, en fait, parce que l'idée était de remplacer, entre guillemets, Caméra Café, mais Caméra Café, c'est un décor unique, avec une seule caméra, avec un casting finalement assez restreint, même si on a des guests aussi par la suite. Kaamelott, dès le début, c'est plusieurs caméras, plusieurs décors, des caméras haute définition en plus, sans parler des costumes, bien entendu, parce que les armures, on peut pas non plus acheter ça toutes les 3 minutes. Donc, il y a un budget assez colossal dès le début, donc heureusement que le public a été au rendez-vous, puisque sinon, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu avoir cette belle évolution dans la suite.
Alors, je suis entouré par des experts, mais la question qui se pose, c'est le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Kaamelott. Saurez-vous y répondre ?
Oh, le suspense !
Kaamelott a commencé comme un programme court, puis c'est devenu une série, bientôt un film. Est-ce que vous pensez que Game of Thrones pourrait faire le sens inverse et devenir un programme court humoristique ?
Avec des pastilles entre Jon Snow et Daenerys ou...
Facile.
Moi, ça l'est déjà, je pense. Il y a des moments qui sont très drôles dans Game of Thrones.
Oui, mais moi, j'aimerais bien.
Moi, je suis sûr, par contre, que Game of Thrones ne pourra jamais être adapté en bouquin, par exemple. C'est impossible.
C'est impossible.
Je pense pas.
Non, ou ça sera beaucoup trop long.
Non,
ça marcherait pas.
Ça marcherait pas.
Ou le mec n'arriverait pas à le terminer.
Non, ouais. Je vois pas le truc.
Quelle idée. Les gens lisent plus, de toute façon.
Non.
Et imaginez un épisode de Kaamelott où Arthur découvre que Perceval et Caradoc se tapent du homard dans les cuisines de Kaamelott et que pour se justifier, Perceval dit qu'il a une intolérance au homard. Ou un épisode où Léo Dagan il se déguise en chevalier casqué pour aller péter la tronche des paysans et qui gueulent parce qu'ils ont faim. Ou mieux, un épisode où il y a un incendie à Kaamelott et Arthur promet de tout reconstruire Fred. En 5 ans.
Aucune crédibilité.
On dit beaucoup de choses à Alexandre Astier. Je pense qu'il a quand même un sens du rationnel et qu'il va jamais aller pousser. Il aime l'humour, ouais. Mais il aime pas l'absurde.
Ouais,
il va pas aller dans l'humour absurde comme ça, créer des situations qui n'auraient aucun sens au bout d'un moment. Il faut que la rétention de l'imaginaire se produise. On perdrait les gens.
Mais il y a quand même un minimum de réalisme à respecter.
Ouais, c'est vrai, ça va trop loin.
Il y a un petit pacte quand même.
Ouais. Vous avez raison. Heureusement, vous êtes là pour. Merci. Plus sérieusement, le vrai problème de la table ronde, c'est les rallonges, non? Non, parce que moi j'ai une table ronde à la maison et à chaque fois, c'est comme la table ronde.
C'est ovale.
Oui, mais elle peut pas, on peut pas l'agrandir. Donc on est obligé de mettre des tables rectangulaires à côté, ce qui fait que ça fait un i. Ou un point d'exclamation suivant quand on regarde, et c'est pas harmonieux.
Après, c'est les nappes, le problème.
Si
il en faut deux.
Tu prends la tapisserie de Bayeux pour mettre dessus.
Ouais, c'est vrai. Du coup, ça fait cher.
Donc la table ronde, pas bon midi, on est d'accord.
Non, mais c'est pas pratique.
Pas pratique du tout.
Mais quelle idée d'inviter des gens aussi, voilà.
Oui, c'est vrai. En même temps, je fais croire que j'invite des gens, mais c'est fou. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est si ces étranges moments de gêne, comme on vient d'en vivre là, n'étaient pas interrompus par la playlist France Inter. On écoute Céleste avec Father Son. C'était Father Son de Céleste.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter.
Ok,
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi, elle vous revient pas?
Mais ça va, pourquoi vous m'agressez?
Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin.
Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si?
Bah si, justement, c'est moi.
Vous faites des tartes, ou maintenant?
Et alors, faut un permis?
La vache, ça vous rend pas aimable, en tout cas, hein?
Il va y avoir 80 larbins en château, et c'est vous qui tapez la tambouille?
Ça me détend! Vous dites rien.
Pourrait pouvoir, hein.
Non, le fruit est bon, hein.
C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire.
C'est pas bon.
Merci bien.
Vous posez la question.
Eh ben, je la pose pas à vous.
La pâte est probablement un peu sèche.
Probablement, oui. Ça doit jouer.
J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier.
Ben vraiment, tant que vous n'en obligez pas à les manger.
J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien.
Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Hein.
On aime toujours les tartes de sa mamie.
Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça.
Quoi?
Mais oui, mon petit père, faudra bien vous y coller. À moins que vous préfériez vous taper les tartes.
C'est dingue, cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois les emmener à la pêche, non?
Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine.
C'est du patrimoine, ça?
Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants.
Mais bah, vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal.
Ah, y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux.
Nos invités sont toujours là pour parler de Kaamelott, le docteur en littérature médiévale Justine Breton, l'administrateur du forum de femmes, oh, de fans, pas de femmes.
Il y en a, mais c'est
un autre site que sur lequel je vais quand il est tard. Mais le forum de fans, on en a gros. Mathieu Gillet et Thomas Hercouet, le community manager du site Topito. Alors il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable durant cet extrait, et quand je dis incroyable, je pense surtout effrayant, où Justine Breton et Mathieu Gillet sont capables de réciter par cœur la quasi-totalité des extraits qu'on passe depuis le début. C'est valable pour tous les épisodes.
On fait passer un test à tous les membres du forum avant une inscription. Et s'ils font pas 100% au blind test, on refuse d'inscrire. Non, c'est pas vrai.
Mais ma famille refuse de regarder les épisodes avec moi. Ils en ont marre d'avoir la stéréo et j'arrive pas à me taire. Donc,
j'ai le même problème à la maison. Ouais.
Je vous présente officiellement toutes mes excuses.
Voilà. Mais c'est le moment. D'ailleurs, je crois que vous aviez un petit message à passer
merci.
Personnel.
J'en profite pour embrasser très fort ma maman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'était la période narcissique. Donc voilà,
Je vais me raccrocher au wagon pour souhaiter un bon anniversaire à mon collègue administrateur et créateur de la version actuelle du forum et du site On en Agro, Askelon, de son pseudo.
Eh ben joyeux anniversaire. Ouais, représente, voilà, Askelon, maman breton, voilà, joyeux anniversaire. Et sinon, on parlait évidemment des influences d'Alexandre Astier. Alors, il y a évidemment Louis de Funès. Quand on le voit jouer Arthur, il y a énormément de Louis de Funès là-dedans.
Kaamelott est dédié à Louis de Funès, d'ailleurs.
C'est assumé officiellement.
Thomas Hercouet?
Oui. Non, mais c'est exact.
Mais ce qui est bien avec les opinions tranchées, c'est que ça rend
le débat. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on voit cette influence-là. Il y a beaucoup d'Audiard aussi. Il y a beaucoup de choses. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Kaamelott, c'est que l'extrait qu'on a entendu là, on pourrait le faire écouter à quelqu'un qui n'a jamais entendu Kaamelott, qui connaît pas le contexte, qui sait pas que c'est de la fantasy, qui sait pas que c'est le roi Arthur. Ça marche. Et en fait, c'est ça qui est important. Je sais que Kaamelott, ça cristallise une vraie communauté autour de ce goût pour l'heroic fantasy. On en a parlé tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui est génial, c'est que les meilleurs moments de Kaamelott sont ceux qui pourraient être détachés de ça. Et finalement, c'est juste une galerie de personnages. L'heroic fantasy, c'est un prétexte, la quête du Graal, c'est un prétexte. Et c'est ça qui est fantastique et c'est ça qui fait que ça marche autant. Et c'est pour ça qu'on finit par apprendre les répliques aussi par cœur, qu'on les connaît, on connaît tous des répliques par cœur. Je pense que l'heroic fantasy, la plupart des fans de Kaamelott s'en carrent un petit peu.
C'est un prétexte complètement, parce que Alexandre Astier a déjà dit qu'il aurait pu écrire les mêmes situations chez EDF ou dans un conseil d'administration.
Exactement.
Ou n'importe quoi.
C'est pour
un
ça que ça marche.
Autre, ouais.
Les effets auraient fait tâche quand même chez EDF.
Ouais, on sait jamais.
Mais d'ailleurs, même l'heroic fantasy est traité de manière très très banale. Le personnage de Merlin, qu'on entendra un peu plus tard, lui aussi c'est un magicien, mais on a surtout l'impression que c'est quelqu'un qui a trouvé une place, peinard, tranquille. Et c'est vraiment des gens qui vivent leur quotidien.
Moi, j'attends qu'il revienne en force, Merlin, quand même. Je suis persuadé qu'il va faire quelque chose de ses 10 doigts à un moment.
Ah, Mathieu Gillet, il a des prédictions.
Moi j'y crois à Merlin.
Attends, un personnage qui a des répliques comme quand je dis que Rome est à la cité, ce que la chèvre est au fromage de chèvre, ça veut dire que c'est le petit plus qui est le corollaire, enfin voilà, tu vois, des trucs comme
qui
ça
qui partent directement dans le cœur du fruit.
Voilà, qui partent dans tous les sens. Voilà. Et qui le joue avec un tel aplomb, tu dis non mais oui, ce mec-là il peut faire tout ce qu'il veut en fait.
Bien sûr.
Voilà.
Et justement le côté la véracité historique, est-ce que on est dans les clous ou on est totalement hors sujet?
Ah, c'est un documentaire.
Exactement. C'est les dragons qui choquent.
Ça a été filmé sur place d'ailleurs. Hein.
Non mais effectivement vérité historique. Bah, le souci c'est que Arthur, il y a quand même un consensus actuellement, hein, c'est que le roi Arthur n'a pas existé, ou en tout cas s'il a existé, il a rien à voir avec ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, avec la Table Ronde, Excalibur, etc. Donc déjà, ça laisse une certaine latitude hein, pour faire ce qu'on veut. Ensuite, les textes se développent principalement Occident à partir du XIIe siècle et en fait continue d'être écrit jusqu'à aujourd'hui. Mais Alexandre Astier a une connaissance en fait très fine de ces textes, pas seulement des textes du Moyen-Âge, mais aussi des réécritures qu'il a pu avoir avec Tennyson, avec Mark Twain et avec des parallèles qui peuvent parfois surprendre comme Star Wars. Mais on a dans Kaamelott, on retrouve cette connaissance très précise dont Astier fait preuve, mais avec laquelle il joue en fait. Il n'est pas là pour enseigner de façon très abrupte en disant bon bah Arthur c'est ça et c'est pas autre chose. Il dit non, voilà, le personnage peut être comme ça. Dans les textes, on a tel personnage, on a Elias qui vient du personnage d'Elia Vress, hein, dans la continuation de Perceval, des choses comme ça très pointues. Mais il y a aussi, bah voilà, on s'amuse tout simplement avec le personnage. Il prend des connaissances et il les tourne dans tous les sens pour que ça marche.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait sur scène également avec l'exo-conférence.
Que ma joie demeure,
le spectacle sur Jean-Sébastien Bach. Ouais. Alors à partir de la saison 5, Alexandre Astier a opéré un changement de ton qui n'a pas plu à tous les fans. Et des fois les fans, eh bien, ils n'aiment pas. Alors on les a pas en audio parce que c'est surtout sur les forums que les fans
se sont... Vous avez trouvé personne qui n'aimait pas Kaamelott en fait.
Mais c'est-à-dire qu'on en a trouvé mais déjà leur voix était masquée.
Puis ils parlaient pas la langue. Et
dit je ne peux pas vraiment dire pourquoi mais je ne veux pas venir parler de la radio pour dire que je n'aime pas Kaamelott.
Aurait-il peur de réaction des fans de Kaamelott?
Peut-être
qui sera leur genre.
Même pour Game of Thrones, on trouvait des gens qui voulaient bien mais là pour Kaamelott non, personne a dit non, je veux pas être celui qui dit qu'il aime pas.
J'ai une famille, arrête.
Voilà, exactement. Donc Mathieu Gillet, j'imagine que vous qui êtes administrateur du forum, vous avez été aux premières loges pour voir ce changement et la réception de ces saisons différentes dans le ton. C'est-à-dire qu'on est moins dans le gag, on est plus dans l'intrigue qui vire vers le drame. Et comment vous avez vécu ça de l'intérieur?
Alors en fait, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'hétérogénéité de la communauté de fans finalement. Parce que... quand on a...
Rien que pour avoir réussi à dire ces mots-là sans fourcher, vraiment j'ai envie de vous faire un bisou.
C'est vrai ? On verra ça après alors. Quand la saison 5, quand le livre 5 est sorti, c'est vrai, on a été face à des réactions de gens qui regardaient Kaamelott au départ parce que c'était rigolo, parce que ça se regardait vite, parce que il y avait des punchlines, parce que Perceval y était rigolo, parce que bon, c'était des gens qui s'intéressaient pas forcément vraiment à la série, mais qui prenaient ça pour une série comique, ce que c'est en partie. Mais quand la saison 5 est sortie, que ça a commencé à être vers une écriture un peu plus dramatique, un peu plus cinématographique, un peu plus complexe. Il y a des tas de gens qui ont été perdus, effectivement, et on en a retrouvé sur le forum qui venaient gueuler pour dire que ça avait rien à voir avec ce qu'ils avaient envie de voir et que... Rendez-nous Kaamelott, quoi, en gros. Hein. Alors, il a fallu leur expliquer gentiment que c'était, ça faisait partie de l'évolution d'une série, qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'écriture de la série et que ils avaient le droit de regarder les anciens livres s'ils avaient envie, mais que à partir de maintenant, c'était ça, quoi.
Mais c'est d'ailleurs quelque chose d'assez symptomatique avec toute série ou tout film ou toute franchise qui marque les esprits, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que le créateur est dépossédé de son œuvre et les fans disent non. C'est pas Kaamelott. Vous mentez. Ça n'est pas Game of Thrones. Ouais. Vous ne devez pas écrire le personnage comme ça. Je le vois autrement. Mmh.
Mais c'est ce que vous aviez dit aussi dans l'émission il y a quelques jours sur Sherlock Holmes. Les pressions et aussi l'envie d'argent de Conan Doyle qui a été obligé de faire revivre son personnage. Là, c'est un peu ça. En fait, l'œuvre prend tellement d'ampleur auprès des fans. Encore plus quand là, ça fait 10 ans qu'on attend un nouveau contenu. Donc ça arrive, ça vient bon. Mais les fans se sont appropriés le truc. Il y en a qui vivent avec Kaamelott au quotidien. On sort des répliques toutes les 3 secondes, etc. Ça fait partie de nous. Donc effectivement, il y a un peu ce sentiment de presque de trahison qu'on a pu avoir, que certains ont pu avoir dans le livre 5, en disant mais j'ai pas signé pour ça moi.
J'aurais trop adoré d'avoir à la sortie de Kaamelott des fans de Chrétien de Troyes qui font. Waouh, c'est pas ma table ronde ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. On respecte les règles un peu.
Sacrilège.
Et justement, parlons de ces films qui ont été annoncés et qui sont censés conclure l'intrigue de Kaamelott. On en est où?
On n'en sait pas plus que vous là-dessus.
14 octobre 2020.
Ouais, la date de sortie qui a été annoncée par Alexandre Astier au moment où il commençait le tournage, c'était 14 octobre 2020. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Il a envoyé quelques photos sur Twitter.
Ouais, le tournage est en cours.
Alors il faut préciser que ces films auraient déjà dû être faits bien plus tôt, mais il y a eu une grosse affaire de droit avec la société Kalt.
Ouais,
il y a eu plusieurs problèmes entre guillemets, parce que à l'origine, le contrat de Kaamelott exigeait 7 saisons pour la diffusion de télé, etc. Asti a dû renégocier parce que voilà, il voulait faire évoluer son histoire différemment. Donc ils sont arrivés à un compromis en faisant un livre 5 puis un livre 6 qui se passe donc dans, en grande partie dans la jeunesse des personnages, avec pour ensuite enchaîner justement sur les films. On entend là en fond la musique justement qui termine le livre 6. Mais il a fallu négocier tout ça, ouais, un bel enchaînement. Et
Céline là, total respect.
Mais du coup, il y avait énormément d'affaires juridiques, financières aussi, à régler. Et Alexandre Astier a tenu bon parce qu'il veut absolument faire sa version. Donc voilà, c'est après on respecte. Nous, on attend, de toute façon, on n'a que ça à faire. Hein. Attendre et se tenir prêt, comme dirait le roi Lotte. Donc on suit le mouvement et puis on appréciera la suite.
Elias de Kellywick, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, pourfendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion de toute puissance, prophète des...
Bon, ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si?
Entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait.
Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin Le Druidisme expliqué aux personnes âgées...
Oui, c'est bon. Vous avez raison, ça va prendre une plombe. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste.
J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme.
Qu'est-ce qui est petit et marron?
Un marron.
Putain, il est fort ce con.
Quoi, c'est tout?
De toute façon, les énigmes, ça a jamais été mon truc, alors.
Un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est, votre truc.
Et on vient de nouveau d'assister à une récitation. Voilà, ils ont même senti qu'il y avait, un truc qui était coupé. Ils disent mais logiquement c'est plus long.
Ouais.
Ah oui, non, vraiment c'est effrayant. Et alors justement, ça fait 10 ans qu'on est sevré de Kaamelott. Alexandre Astier, évidemment, on peut regarder les coffrets. Il y a un coffret qui est sorti il y a pas très longtemps.
On a les BD en attendant.
On a les bandes dessinées. Il y a des romans aussi à l'étude qui sont censés faire la transition entre le livre 6 et le film.
Il y a un projet qui a été évoqué qui s'appelait Kaamelott Résistance, ouais. Qui était censé faire la transition effectivement entre la fin de la série et les films, mais c'est quelque chose dont on a entendu parler et dont on n'a pas trop de nouvelles.
Ouais, ça devait aussi être soit des romans, soit une série audio ou en tout cas un contenu littéraire augmenté.
Roman graphique à une époque aussi.
Roman graphique, il y a eu pas mal de projets. Il y a des projets
aussi,
de jeux,
je crois.
Aussi.
Des 3 téléfilms sur M6 à un moment donné qui avaient été évoqués.
Oui, c'est possible, voilà.
L'idée a été évoquée, ouais.
Mais on a un peu l'impression que il y a rien qui correspondait véritablement à ce que Astier voulait faire pour écrire son histoire. Il y a bien cette idée de contenu transmédia, hein, puisque justement on a la série, les BD et au moins les films. Mais c'est un peu éclaté et on sent que Astier veut contrôler tout ça pour que l'histoire se tienne et que ça parte pas dans tous les sens en produits dérivés. Quoi.
S'il avait eu moins de soucis de financement pour se lancer dans les films, il aurait peut-être eu plus d'énergie à consacrer à ça, mais je pense que ça l'a peut-être un petit peu retardé là-dessus aussi.
Et Mathieu Julet, justement, Astier a réalisé 2 très bons films d'animation basés sur Astérix. Est-ce que... l'expression est un petit peu cavalière, mais est-ce que ça vous a calé une dent creuse?
Ouais, j'ai envie de dire c'est pas faux. J'étais obligé de la faire. Je pense effectivement que parmi la communauté de fans, et je suis pas le seul représentant, mais il y a pas mal de gens qui, dans l'anticipation des films, ça leur a fait du bien d'avoir leur dose d'humour Alexandre Astier en attendant que les films sortent, quoi. Donc il n'y a pas eu que ces projets-là, il y a aussi une autre série qui a été réalisée par le demi-frère d'Alexandre Astier qui s'appelle Hérocorp.
Voilà,
qui est excellent, que je vous conseille.
Dans lequel on retrouve cette communauté de mon femmes. Camarade Dedo également.
Voilà, exactement.
Dedo, Alban Lenoir.
Donc tous c'est une série qui a sa vie à part entière, Hérocorp, mais je pense qu'il y a pas mal de fans de Kaamelott qui se sont tournés un petit peu vers Hérocorp aussi pour retrouver un petit peu cet esprit et patienter en attendant qu'il y ait du nouveau Kaamelott qui sorte.
Et est-ce qu'il y aurait d'autres séries faites par d'autres créateurs ou d'autres programmes courts qui seraient les héritiers de Kaamelott?
Des bonnes séries?
Oui.
La grosse question.
C'est un style tellement à part que c'est difficile de faire, j'ai envie de dire, aussi bien sans chercher à copier. Enfin, ce qu'il faut, c'est pas justement.
Parce que M6 a tenté avec Peplum de faire quelque chose.
Voilà, ça a eu la longévité que ça a eu, hein, c'est bien la preuve. Mais c'est des tentatives, mais je pense que ce qu'il faudrait, alors c'est très, très honteux de ma part de dire ça, mais c'est avant tout créer un contenu original plutôt que de chercher à faire comme Kaamelott. Kaamelott, ça a marché, mais faire pareil, est-ce que ça a intérêt quoi ?
Alors le truc c'est que l'héritier de Kaamelott, on peut pas faire un truc comme Kaamelott, mais Kaamelott encore une fois c'est vraiment des musicalités de répliques, c'est des vannes, c'est des enchaînements de vannes, c'est des formats courts à l'origine avec souvent quand même un fond assez solide, et je pense qu'on trouve ça vraiment sur internet aujourd'hui. Ouais. Quand on parle du Visiteur du Futur, quand on parle des productions de Golden Ouswash, je pense que tout ce qu'on fait Julien Josselin, Valentin Vincent, Florent Bernard, etc. Je pense que c'est Donjon Albuck, oui, un peu avant du coup, mais avant, ouais. Et pour le coup tout ça, ce sont des gens qui ont baigné dans Kaamelott et qui en fait en font un héritage. Et aujourd'hui, je pense très sincèrement que ce qu'on voit sur Instagram, des nouveaux genre des Freddy Gladieux, Laura Felpin, etc. Je pense que c'est des gens qui ont consciemment ou inconsciemment baigné dans ce que Kaamelott a pu apporter aujourd'hui à l'humour. Et je pense que si on veut chercher des héritiers de Kaamelott aujourd'hui, alors on va pas trouver des trucs d'Heroic Fantasy, on va pas trouver des grandes sitcoms, mais on va trouver des choses qui distillent un même humour, un goût pour la musicalité, un goût pour la punchline.
C'est une belle
et je pense que s'il n'y avait pas eu Kaamelott, on n'aurait pas des productions sur internet qu'on a aujourd'hui.
C'est une suite assez logique finalement au fait que Alexandre Astier, dans ce qu'il fait, c'est un peu l'héritier d'Audiard, hein, parce que on parlait de la culture des fans, il y en a beaucoup et j'en fais partie, qui ont été élevés grâce à leurs parents, merci papa, merci maman.
Ah, l'importance de la transmission, mais oui, tout à fait.
Et on retrouve complètement cette ambiance-là, donc c'est vrai que après qu'il y ait des gens qui soient à leur tour inspirés par Kaamelott et par ce que fait Alexandre Astier, c'est logique finalement. Donc,
même si encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas de l'inspiration consciente, forcément, c'est juste que
c'est une construction,
un environnement et un écosystème qui fait que bah aujourd'hui l'humour c'est ça, mais comme il y a plus, comme les Robins des Bois ont trempé et ont participé à cet écosystème, les Nuls et aussi d'autres inspirations, mais Kaamelott est une partie vraiment
intégrante. Il y a aussi la Vipère Noire avec Rowan Atkinson,
Blackadder,
à voir. Évidemment, si vous ne connaissez pas les Monty Python, voilà, c'est aussi à voir. La vie de Brian, Sacré Graal, etc. Tout ça, ça constitue l'ADN de Kaamelott au même titre que Astérix. Parce que en réalisant les dessins animés, les films d'animation sur Astérix, en fait, il rendait à César ce qui était à César.
Exactement.
Parce que c'est quelque chose. Mais oui, c'est pensé. qu'on retrouvait dans Kaamelott. Donc, on a un film dont on ne sait pas grand-chose, qui est censé sortir fin 2020, peut-être pas.
Si, on y croit.
Ah oui.
Si.
Là, il y a une forme d'auto-persuasion quand même.
Mais c'est quoi, il faut y croire là. Ouais. Voilà,
ok.
Non mais ça va être bien.
Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, histoire de lui laisser encore quelques secondes pour réviser, on écoute Dominique A avec Beau Rivage.
Avons perdu beaucoup de temps.
avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons.
C'était Beau Rivage de Dominique A. Et maintenant, on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Olivier au téléphone. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous les invités.
Bonjour Olivier. Alors, racontez-nous votre rencontre avec Kaamelott, s'il vous plaît Olivier.
Oh, eh bien, je pense que c'était comme la majorité des gens. J'ai découvert ça quand j'étais plus jeune, à la télé, sur M6, dès le premier livre. Et c'était le rituel du soir, hein, à 20h30, les deux épisodes. Et depuis le début, j'ai jamais décroché.
Et est-ce que, comme Mathieu Gillet et Justine Breton, vous êtes capable de réciter les dialogues par cœur?
Une bonne partie, oui, même si je dois être un peu rouillé vu qu'on est sevré depuis quelques années, mais effectivement, quand ça repasse à la TNT, ça revient vite.
D'accord. Et vous avez un personnage de prédilection?
J'avoue que Léo Daga me fait toujours bien marrer avec et François Rollin aussi dans le roi.
Oui, écoutez, vous avez gagné.
Il est assez facile.
Voilà, on fait pas le jeu, vous avez gagné.
Je suis d'accord.
Vous avez gagné, je vous aime bien. Vous avez gagné. Ah. Allez, non, on va quand même faire semblant. Hein, de toute façon, on gagne toujours.
Allez, c'est parti.
Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono ou un peu plus, parce que vous savez que j'ai des auditeurs qui m'envoient des tweets en disant vous avez mis plus de 25 secondes, vous êtes un tricheur. Ouais. Donc voilà, j'ai des auditeurs exigeants. Donc, si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix.
D'accord.
C'est parti. Pour Perceval, le Graal, cela pourrait être réponse A, un pot de confiture bocal à anchois, réponse B, un bocal à anchois, ou réponse C, un bocal de cornichons.
Est compliqué celle-là. Pour je vais prendre mon joker sur celle-là, je pense.
Très bien. Alors, vous voulez faire appel à qui?
Alors, à Mathieu Gillet.
Mathieu Gillet.
Sur ce coup-là.
Alors, je répète la question. Ouais. Pour Perceval, le Graal, cela pourrait être réponse A, un pot de confiture bocal à anchois, un bocal à anchois ou un bocal de cornichons.
C'est bien évidemment un bocal à anchois.
Oh là là, bah évidemment, évidemment. Là, on a affaire à un expert. Hein.
Ah oui, oui. Là j'hésitais entre les deux premières, c'est pour ça.
Alors, attention. Question suivante. Comment s'appelait le court-métrage qui a inspiré la série?
Yes, Irae.
Oui, c'est très bien.
C'est aussi le titre du dernier épisode.
Très bien. C'est aussi, effectivement, le titre du dernier épisode. Donc, dernière question, on va vous diffuser un son. On écoute.
On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit, passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, et il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17.
Comment s'appelle le jeu de Perceval?
La grelottine.
Bravo! C'est une bonne réponse.
Respect.
Eh bien, Olivier, vous avez gagné le livre de Justine Breton et Florian Besson, Kaamelott, un livre d'histoire paru aux éditions Vendémiaire.
Eh ben c'est super, je vais lire ça avec beaucoup d'attention, ça a l'air super intéressant.
Eh ben merci d'avoir participé Olivier.
Merci et bonne fin d'émission et bravo encore pour Blockbuster, c'est tout simplement génial.
Bah merci.
Merci beaucoup. Il y a Thomas Hercouet qui fait partie des mêmes, attendez, merci, écoute, c'est rien.
Je fais la table basse.
On a fait ce qu'on pouvait. D'ailleurs, avant de, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je vous ai pas posé la question de base, quel est votre personnage préféré? Justine Breton.
C'est dur comme question, ouais. Mais j'ai quand même un faible pour le roi Lotte, parce que c'est François Rollin, quoi. Voilà. C'est professeur Rollin, je peux pas aller à l'encontre.
Ouais, ouais, quand en y réfléchissant, je dirais Perceval, parce que je trouve que c'est le plus touchant de tous, finalement. Donc, voilà.
Bort, c'est le plus sensible et c'est le moins con, je pense. Donc,
Bort.
Ouais. Sous-côté. Très sous-côté. Comme
en plus, le plus logique, le plus rationnel.
C'est mon numéro 2 après Léo Dagan. Ouais.
Oh, c'est bizarre, parce qu'il y a contraste, hein, là.
Je suis un homme de surprise.
Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette émission. Justine Breton, Florian, pas Florian Besson, il n'était pas là.
Non, mais on lui dit bonjour aussi.
Donc, Thomas Hercouette, Mathieu Gillet, merci d'avoir été avec nous. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI.
Voilà, ça s'est pas trop mal passé.
Ah bah nous, au bout d'un moment, on a préféré plus rien dire.
Oui bah voilà, du coup ça s'est pas trop mal passé.
Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas interrompu tout seul avec un de mes gestes. Et voilà, c'est un revival des premières saisons de Blockbuster où je faisais ça tout le temps. C'est-à-dire que je faisais une phrase, je faisais la virgule, hop, on m'envoyait un son, et puis je refaisais à la suite de la phrase après le son. Donc on se retrouve lundi pour parler du boxeur philosophe le plus connu de l'histoire du cinéma, Rocky Balboa. Après le journal, on retrouve Dorothée Barba pour c'est le débat faux. De midi. Bonjour Dorothée.
Bonjour à tous, moi je préfère Caradoc, hein. Vous rigolez ou quoi?
Ah c'est vrai, ouais, mais il a la
bonne philosophie de ouais.
Bon, le débat de midi ne parlera pas de Kaamelott malheureusement, mais on va parler de bio. Est-ce que vous mangez bio, Frédéric Sylvester?
Oui, mais depuis des années.
Alors, les tomates bio qui ont poussé sous une serre chauffée, ça vous branche?
On est contre,
mais c'est du bio. Voilà, le bio est-il forcément respectueux de la planète? Y a-t-il une religion du bio ou vaut-il mieux parfois manger local ou sans emballage? J'attends les réactions, les commentaires et les questions des auditrices et des auditeurs sur la page du débat de midi sur franceinter.fr, je crois. C'est ça, hein?
C'est tout à fait
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et c'est le débat de midi et c'est après les infos.
Exactement.
On a tout dit.